Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue. Actualité économique du jour. On va évoquer cette décision de Renaissance, l'ancien LREM. Alors, l'histoire n'est pas finie, mais en tout cas, ils ont arrêté un principe hier. Le fameux dividende salarié dont on parle si souvent. Renaissance veut que ce dividende salarié soit obligatoire. Obligatoire pour toutes les entreprises. Autrement dit, la participation, ce serait pour toutes les entreprises et pas uniquement celles qui sont au-delà de 50 salariés. La dernière fois qu'on a imaginé un t-shirt à taille unique pour l'ensemble des entreprises françaises, c'était à la fin des années 90, quand est passée la loi Aubry sur les 35 heures. Le pouvoir d'achat des Français est mieux protégé que dans les autres pays d'Europe. C'est le résultat d'une étude du blog FipAddict qui constate, en comparant les données européennes, qu'en 2022, le pouvoir d'achat des ménages français sera supérieur d'1,5% à son niveau de 2019. Ça représente 330 euros en moyenne par habitant, un chiffre qui n'est pas très éloigné du portrait social de l'INSEE dont on parlait tout récemment. En tout cas, la France fait figure d'exception, car dans beaucoup de pays, ça baisse très sensiblement, notamment en Espagne. Emmanuel Macron aux États-Unis pour essayer de quoi d'ailleurs ? Essayer de répondre ou de discuter avec Joe Biden de cette logique America First XXL. Comment est-ce que l'Europe peut réagir, peut répondre à cette loi anti-inflation qui en fait est une loi hyper-subvention que l'Amérique a votée l'été dernier, qui entre en vigueur au début de l'année prochaine et qui aura des effets tout à fait immédiats pour pas mal de pans industriels, notamment en Europe. Et puis on évoquera les retraites, parce que maintenant le coup d'envoi est donné. Elisabeth Borne s'est exprimée hier. Eh bien, c'est mi-décembre que tout sera dévoilé. Tout mi-décembre. La possibilité d'imaginer qu'un amendement glissé dans la loi de financement de la sécurité sociale au moment de la dinde, ça reste une hypothèse qui peut être envisagée. On parlera de Twitter aussi. Où va Twitter depuis qu'Elon Musk est là-bas à la manœuvre ? Entre les salariés qui fichent le camp et même les annonceurs qui commencent à prendre la poudre des scampettes, c'est une question un peu basique, mais je me suis demandé si Twitter avait un avenir. Patrick Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Directeur général d'opération Allnest. Directeur général opération d'Allnest, le family office de Jean-Michel Aulas. Sylvain Rébi, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président d'Orientis, Lété Kousmi et Rafik Smati, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes chef d'entreprise dans le digital et vous avez fondé Objectif France, qui se veut être une formation politique. Renaissance a donc acté l'idée du dividende salarié obligatoire pour toutes les entreprises et également l'idée d'un super dividende salarié en cas de super dividende. Donc, ça concernerait là le super dividende salarié que les entreprises de plus de 50 salariés, dans la mesure où le dividende versé aux actionnaires est 20% supérieur à sa moyenne des 5 années qui précèdent. Voilà. Ces deux dividendes salariés vont maintenant être discutés dans le cadre de la convention menée par Olivier Dussopt, et puis Renaissance annonce qu'ils arrêteront les aspects techniques lors de la convention prévue fin janvier 2023. Je rappelle que cette notion de dividende salarié, qui est un terme un peu marketing pour parler de participation et d'intéressement, fait partie des engagements de campagne d'Emmanuel Macron. Mais derrière, il y a cette problématique importante, et surtout en ce moment, de partage du profit. Donc c'est un engagement sur lequel le président de la République aura du mal à ne pas respecter. Je vous entendais déjà réagir, Patrick Bertrand, sur ce dividende salarié. Mais là, c'est le côté obligatoire pour tous.
Hein. Oui. Vous parliez de marketing, parlons à ce moment-là du salaire des actionnaires. Puisque cette expression emporte une absence de pédagogie absolument incroyable. Puisqu'il faut toujours rappeler, c'est pas pour défendre le sujet des dividendes, toujours rappeler qu'il y a le capital travail et le capital financier. Et le capital financier, il touche rien. Alors qu'au passage, l'État est très normalement les salariés ont perçu leur salaire, et qu'aussi les systèmes de participation et d'intéressement marchent très bien. Il y a une chose qui me frappe, c'est que quand il y a des articles sur le montant des dividendes, on ne parle jamais du montant de la participation et de l'intéressement. Est-ce que vous savez ce que ça représente? Et d'ailleurs, il y a une augmentation de 20% en 2022. Ça représente entre 17 et 20 milliards. Les dividendes, 47 milliards. Si on considère que tous les actionnaires étaient des personnes physiques, économique. L'État, au passage, se sert sur les dividendes au travers de la flat tax. Donc, on n'est plus qu'aux alentours de 32 ou 33 milliards. Donc, ramenons déjà, faisons un petit peu de pédagogie. Le point fondamental, c'est d'améliorer le partage, non pas du profit, mais le partage de la valeur. Et il y a un certain nombre d'outils. Ces outils, il faut les étendre et les accélérer parce qu'ils fonctionnent bien. Et les chiffres que je viens donner l'expriment. Donc, il faut trouver les mécanismes qui permettent de l'étendre, y compris dans les petites et moyennes entreprises. Et au passage, que l'État arrête de se servir, parce que je rappelle le rétablissement du forfait social sur la participation il y a quelques années. Donc, on arrête de...
Il a été considérablement abaissé, le forfait social, par la loi PACTE. C'est la partie fiscalité que l'État vient prendre sur la participation et l'intéressement. Ce qui est un peu aberrant, vouloir promouvoir des outils tout en les taxant, c'est vrai que...
Absolument. Mais en tout cas, tout ce qui permettra à l'avenir d'étendre les mécanismes d'intéressement des salariés sous quelque forme que ce soit, parce qu'il y a une bonne bibliothèque entre participation, intéressement, il faut aussi développer l'actionnariat salarié, parce que au-delà du pouvoir d'achat et de la constitution d'un patrimoine, ça permet d'assurer une forme de pérennité aux entreprises. On le voit dans les entreprises dont l'actionnariat salarié est très développé. Voilà, le sujet, c'est le partage de la valeur. Comment est-ce qu'on l'améliore? Comment est-ce qu'on l'accélère? Et comment est-ce qu'on l'élargit?
C'est un truc d'expert de dire « Ah, c'est pas du partage de... » Je sais que vous avez raison. Le salaire arrive avant le profit dans le bilan de l'entreprise. Mais vouloir parler de partage de la valeur ou partage du profit, c'est un truc de BFM Business. Sur l'ensemble de l'opinion publique, c'est on partage le blé. Voilà,
c'est on partage le blé, 17 à 20 milliards intéressement et participation.
Mais la nouveauté, c'est obligatoire pour toutes les entreprises. C'est ça le phénomène nouveau. On sent bien que cette histoire va prendre corps d'une manière ou d'une autre. Bon, Rafik Smati, comment est-ce que vous accueillez donc ça a été annoncé par l'eurodéputé Pascal Canfin, qui a été missionné sur ce sujet, vous le savez.
C'est un sujet qui est très intéressant et plus complexe qu'on ne le croit. Je vais vous dire pourquoi.
Mais il va falloir simplifier là, Rafik.
C'est ce que je m'apprête à faire.
Si vous me faites que du complexe avec des gens qui ont besoin de simplicité pour comprendre.
C'est ce que je m'apprête à faire.
Qu'est-ce qu'on va me donner? Voilà, je vais être un peu...
Si on regarde le sujet en tant qu'économiste, on regarde que la part des salaires dans la valeur ajoutée n'a pas baissé depuis l'après-guerre.
Bon, on a un débat maintenant avec Dany Lang sur ce sujet qui, avec des sources européennes, nous dit que c'est pas vrai.
Et il n'y a pas eu de distorsion notable au
notable,
profit du capital.
Notable,
donc ça, a priori, ne justifie pas un tel débat. Ensuite, si on regarde le sujet en tant que chef d'entreprise, en tant que patron...
Comment ça ne justifie pas un tel débat?
Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de distorsion du capital par rapport au travail depuis 40 ans. La part du travail dans la valeur ajoutée est stable.
Il y a un débat sur le
fait... Et il y a eu des décrochages dans un très grand nombre de pays européens, pas en France. C'est ça la réalité.
D'accord, mais il y a un débat sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas assez de leur salaire pour vivre.
Alors justement,
même s'ils travaillent à temps plein.
Donc, d'un point de vue économique, j'émets un certain nombre de doutes. En tant que chef d'entreprise, j'émets des doutes aussi parce qu'on m'enlève de ma souveraineté. C'est-à-dire que ma souveraineté.
On vous impose.
Que chef d'entreprise, c'est de payer mes salariés et d'avoir la main sur le salaire de mes salariés. Et là, il y a une mesure unilatérale qui va m'obliger à faire un certain nombre de choix. Et je vous passe sur le fait que certains patrons ne se payent qu'en dividendes. Et là, ça va les mettre en situation de difficulté. Je vous passe aussi le cas que dans certaines entreprises, vous avez des dividendes qui remontent au niveau du holding pour financer un autre projet qui est porté par la holding, et ces entreprises-là seront aussi mises en difficulté. Donc, du point de vue du patron, ça pose un problème. En revanche, et c'est là où les choses sont intéressantes, du point de vue du citoyen, du consommateur, je comprends que ce débat puisse s'imposer aujourd'hui. Et si j'avais été aux responsabilités, au risque de vous surprendre, et malgré tout ce que je viens de dire avant, peut-être aurais-je porté une telle mesure. Parce qu'on est aujourd'hui dans un schéma où vous avez un chaos social qui est en train de s'installer dans notre pays, avec une inflation qui est galopante. Vous avez un certain nombre de signaux qui seront envoyés, des super profits de grandes entreprises. Alors c'est l'arbre qui cache la forêt.
Je sais,
évidemment.
Bien sûr.
Mais l'économie et la politique, c'est aussi une affaire de signaux. Et
c'est Montebourg qui disait, il faut pas ignorer la psychologie. Il avait
et on s'apprête à faire passer une réforme des retraites qui sera contraignante. Et donc, je comprends que d'un
point de vue l'assurance chômage
politique, on ne puisse pas envoyer le signal qu'on est uniquement dans du sang et des larmes. Et que dans une situation de crise, il faut accepter l'idée que les salariés puissent participer à la réussite de leur entreprise. Donc, malheureusement ou heureusement, c'est le politique qui décide tout. Vous savez, la politique est au-dessus du reste dans une démocratie, par définition. Et donc, cette loi va probablement passer, va mettre des contraintes sur les chefs d'entreprise. Je le regrette en tant que patron, mais je m'en réjouis en tant que citoyen.
Oui, alors on y a une, il y a un peu de machiavélisme politique. On veut surtout éviter, enfin tuer le débat sur une éventuelle, un éventuel retour de l'indexation des salaires sur l'inflation. Et avec ça, on se dit bon ben. Et puis on veut aussi essayer de faire taire Jean-Paul Mattei, le patron du MoDem, qui lui brandit l'idée de taxer, donc la fiscalité. On veut éviter la case fiscalité. Il veut taxer temporairement ce qu'il appelle les super dividendes. Sylvain Arébi, par rapport à ce... Moi, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser aux 35 heures. Le t-shirt à taille unique pour tout le monde le même jour. Les 35 heures, ça a été une hausse de salaire. Là, c'est un accroissement de la masse salariale obligatoire.
Oui, c'est pas une très bonne nouvelle, mais heureusement, moi je suis pas d'accord avec Rafik. Je pense que ça ne verra jamais le jour.
Alors ça.
Je pense que c'est un rideau de fumée aujourd'hui, parce que, comme vous le dites, on parle d'indexation des salaires, parce qu'on parle d'augmentation des impôts, que ce gouvernement ne veut ni indexer les salaires, ni augmenter les impôts, et qu'il faut bien trouver quelque chose pour gagner du temps, le temps que on voit l'inflation refluer un peu, parce que le sujet, il est né avec l'inflation aujourd'hui. Le dividende salarié, bon, on l'a tous dit, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est un mot... Enfin, quand on prépare une loi, un projet de loi, il faudrait qu'on ait des termes à la tête de ce projet de loi qui veuille dire quelque chose. Dividende, salarié, ça ne veut rien dire. Et Pascal Canfin le sait très bien, ça ne veut rien dire. En plus, dividende, salarié, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le salarié a des droits que sans avoir les devoirs liés à la possession d'actions.
Et parce que vous voulez vous arrêter. Mais oui, je comprends. Mais vous vous arrêtez sur le mot, bien sûr.
Vous avez des droits, vous avez des dividendes, mais vous avez aussi le contre-coup de la baisse de l'action si jamais l'entreprise se porte moins bien.
Oui, puis vous avez payé pour avoir ces droits.
Et puis vous avez payé. Donc ça ne signifie rien. Je pense que ça ne verra pas le jour. Ça ne verra d'autant moins le jour que le gouvernement a dit que ça passerait par la négociation avec les partenaires sociaux.
Ça, c'est très mal.
Grosse blague. Hein, oui.
Très mal.
Grosse blague, quand on voit les résultats des négociations des partenaires sociaux, on peut penser que ça ne verra jamais le jour.
Mais non, mais vous savez comment ça marche. En plus, on fait une négo qui n'aboutira absolument pas, et l'État reprend la main à la fin comme d'habitude.
Absolument, donc, c'est je pense ce qui va se passer.
Les syndicats plus, ne veulent que du salaire.
C'est absolument injuste, parce que, encore une fois, on va favoriser les grosses boîtes qui versent du dividende au détriment, les salariés des grosses boîtes, au détriment des salariés des plus petites boîtes qui ne peuvent pas verser de dividendes. Comme le disait Rafik, il y a des entreprises qui versent du dividende pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la rétribution des actionnaires, mais pour payer peut-être d'autres projets. Il y a des entreprises qui ne distribuent pas de dividendes pour tout réinvestir. Et donc leurs salariés vont être pénalisés parce que leur entreprise investit fortement et ne distribue pas de dividendes. C'est complètement absurde. C'est idiot économiquement, c'est idiot politiquement. Et donc ça ne verra jamais le jour. Je vous le signe aujourd'hui.
Mais si, ça va voir le jour.
Non, pas. Ça ne verra pas
la
le jour.
La seule question qui va se poser, c'est quel va être le niveau d'usine à gaz qui va être mis en place.
Exactement. Moi, je dis niveau zéro, on en reparle au mois de mars prochain.
Et souvent, les prévisions de Sylvain, elles ont été avérées.
Oui, alors je partage.
Allez-y, Rafik.
Rafik.
Non, mais toute la question est de savoir le niveau d'usine à gaz. Les exemptions, les cas particuliers, etc. Vous savez, le genre de choses dont on a le secret en France pour faire passer des réformes, mais avec mille et une exceptions qui fait que finalement plus personne n'y comprend rien. C'est ça le risque, parce que ça passera. Mais peut-être avec une usine à gaz qui fait qu'au final, vous aurez raison.
Alors, des réformes qu'on a voulu, qu'on a volontairement rendu complexes pour dire on l'a fait, mais on sait qu'avec à cause de la complexité, ça n'aura pas d'effet. Mais c'est tout à fait génial, ça.
Rafik a raison, et c'est le propre de la législation en France, c'est au lieu de voter un principe, on va dans le détail du détail du détail.
Toujours.
On pourrait imaginer qu'on vote le principe que l'ensemble des entreprises doivent mettre en place des accords d'intéressement sur le profit. Et on, voilà, on vote uniquement ce principe-là. Il y a une obligation de l'ensemble des entreprises. Il y a du profit, pas du profit. L'ajustement de l'accord d'intéressement est à la main des dirigeants et des partenaires sociaux. Et si on était dans ce contexte-là, je pense qu'on pourrait arriver, entreprise par entreprise, à trouver le bon chemin. Le problème, c'est que si jamais ce texte passe, on va la voir dans le détail du détail du détail, parce que les députés pensent qu'ils savent mieux que les dirigeants d'entreprise comment il faut manager leur entreprise.
Les accords de participation ou d'intéressement sont tout à fait faits pour ça.
Eh bien, exactement.
Ils sont complètement déconnectés de l'actionnariat. C'est avant la distribution de dividendes. Donc il faut, ce que fait la loi PAC déjà, il faut favoriser les accords, la participation, il faut favoriser les accords d'intéressement pour toutes les entreprises.
L'actionnariat salarié.
L'actionnariat salarié de la même façon, mais et c'est par là que ça passera.
Exactement.
Je vous le garantis. Bon. Et pas du tout par une nouvelle loi sur le dividende salarié. Quel mot merveilleux.
Et en tout cas, ce qui m'a fait peur dans l'histoire, c'est qu'en Renaissance dit, on se retrouve pour notre convention en janvier 2023 et on va arrêter les aspects techniques. Quand on va arrêter... Parce que là, le principe, on comprend. Tu verses du dividende à un actionnaire, tu dois verser du dividende à ton salarié. C'est obligatoire, même si vous êtes deux. Bon. Alors, enfin, il y aura la problématique des patrons dont dividende est la rémunération. Alors là, ça va.
Sans compter qu'il y a d'autres moyens de verser de l'argent aux actionnaires, qui est le rachat d'actions, par exemple, qui n'est pas un dividende et qui donc permettra à toutes les entreprises d'éviter de verser du dividende aux salariés.
C'est absurde.
Tout ça est débile.
En plus, je vois venir effectivement toutes les méthodes de contournement.
Ça n'a pas de sens.
C'est la raison pour laquelle, Sylvain, vous avez raison. Mais le débat au niveau auquel on est, il n'est plus du tout économique. Il est
politique. On est bien d'accord.
Exactement. Vous avez aujourd'hui des gens qui voient aligner les milliards et qui se disent « et pour moi ». Voilà, c'est un vrai sujet politique. Si on veut éviter un déferlement de gilets jaunes 2.0 dans les mois qui viennent, c'est un sujet que nous devons prendre en considération. Et y compris
vous rendez compte de ce que vous dites, Rafik, et pour moi. Mais... alors qu'on regarde tous les bilans qui sont faits justement du pouvoir d'achat des Français, et le dernier en date d'hier, où on a préservé le pouvoir d'achat des Français à coup de wagons de milliards. Et on a encore, je lis encore des réactions, il n'y a rien pour nous.
Non, attention, je suis tout à fait d'accord avec Rafik.
Sur quel sujet ?
Il faut résoudre le problème de ces gens qui n'ont pas de quoi finir le mois, qui voient les milliards passer et qui se disent « c'est jamais pour moi ». Mais ce n'est pas aux entreprises de payer ça. Parce que si ce sont les entreprises qui payent, c'est encore au détriment de notre efficacité par rapport à nos concurrents allemands, italiens, américains. Donc ça ne colle pas. On ne peut pas laisser porter ça sur les entreprises françaises.
Et je redis, au risque de me répéter, 17 à 20 milliards. Si on parle de milliards, on y va. Les 47 milliards de dividendes et 17 à 20 milliards de participation et d'intéressement et plus de 10 millions de personnes concernées, soit pratiquement 50% des salariés du secteur privé.
Mais c'est assez extraordinaire d'ailleurs de voir que on a eu les estimations, on est entre 100 et même un peu plus de 100 milliards d'euros très largement dirigés depuis 2021, 2022, 2023 vers la demande, vers les ménages, et on a l'impression que ça ne se voit pas. Et là, on a le bilan qui a été fait par Fipadict. Le pouvoir d'achat des ménages français sera supérieur fin 2022 d'1,5% à son niveau de 2019. En Allemagne, c'est stable. En Italie, ça baisse. En Grande-Bretagne, ça baisse de 2,3%. En Espagne, de près de 7%. Et on a l'impression qu'effectivement, ça part dans le sable et que personne ne le voit. Ça vous inspire une réaction, ça ?
Ça m'inspire une réaction que, à l'étranger, on ne parle pas de tous ces gens qui ont vu leur pouvoir d'achat baisser de 2 ou 3%. Enfin, nous, on n'en parle pas en France. Mais il faudrait qu'on fasse plus de comparaisons de ce style pour montrer aux Français, finalement, qu'ils ne sont pas si maltraités. On dépense beaucoup d'argent en France. Et les gens sont devenus habitués, ils sont devenus un petit peu insensibles à ce qu'on leur donne, mais il faut de temps en temps faire des comparaisons avec les pays limitrophes dont les salariés souffrent beaucoup plus que les nôtres.
Ce qui me surprend, c'est que ne revienne pas le débat sur la TVA sociale, puisque là on parle de précarité. Et donc précarité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pouvoir s'alimenter correctement, enfin tout ce qui est consommation de biens de base. Et je pense que l'on pourrait traiter ce sujet plutôt que d'avoir un peu l'hélicoptère à monnaie qui arrive régulièrement, qu'on pourrait, sur des produits de base, pendant un certain temps, étendre la TVA réduite pour faire en sorte qu'on arrive à un dispositif.
TVA sociale suppose de baisser des cotisations financées par la TVA. En fait, ça bascule une partie du financement de la protection sociale vers l'impôt. Mais vous savez bien que les baisses de TVA, la répercussion n'est pas assurée. Quand vous dites qu'on va baisser une TVA comme on l'a fait dans la restauration, les cartes des restaurants, elles n'avaient pas baissé, on avait augmenté la marge des restaurateurs.
Moi, je parle sur les biens, ça existe déjà, le taux de TVA réduit sur les biens de base, et bien faisant en sorte qu'elle soit peut-être un peu étendue sur la consommation des biens de base, et de façon temporaire. Le problème, c'est qu'en France, quand on a voté quelque chose, ça dure éternellement.
Oui.
Sur le pouvoir d'achat,
allez-y, Rafik Smati.
Il faut dire les choses telles qu'elles sont. En France, le pouvoir d'achat est maintenu, voire augmente par rapport aux autres pays européens. L'inflation est plus basse que dans les autres pays européens.
Il n'y a pas de doute.
Et la croissance sera meilleure ou la récession moins pire en fonction que dans les autres pays européens. Voilà le schéma macroéconomique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors tout cela nous coûte, si je peux reprendre l'expression, un pognon de dingue. C'est vrai. Et donc vous allez avoir deux hypothèses. Soit la crise que nous traversons aujourd'hui, en particulier la crise énergétique, la guerre en Ukraine, ne durera pas longtemps. soit elle durera longtemps. Si ça ne dure pas longtemps, je vous le dis, la France raflera la mise. Parce que nous aurons
été... une année 2023 extraordinaire.
Nous serons en situation de redémarrer plus vite que les autres et nous raflerons la mise. Maintenant, si on est parti sur... des périodes de tension qui vont durer 5 ou 10 ans.
On ne peut pas tenir le rythme
là,
du quoi qu'il
fera du là, on
débouclier.
Se prendra le mur de la dette en face de nous de manière évidente avec des conséquences dramatiques. Mais je crois aujourd'hui, et nous sommes quelques chefs d'entreprise autour de cette table, notre morale à nous, chefs d'entreprise aujourd'hui, malgré tout le contexte extrêmement tourmenté, reste positif. Et ça, il faut que nous en ayons conscience. C'est-à-dire que nous considérons, et je considère, qu'à condition que cette crise ne dure pas trop longtemps, nous entrons possiblement, je l'ai déjà dit, ici, dans un nouvel âge d'or, une nouvelle renaissance, de nouvelles trente glorieuses portées par la nouvelle révolution technologique qui va nous permettre de créer de la richesse partout dans le domaine écologique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la mobilité, etc. Donc si on sait passer cette crise et qu'elle ne dure pas longtemps, je vous le dis, c'est la France qui raflera la mise. Et donc ça, c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes. On pourra faire le bilan de cela dans un an, dans deux ans ou dans dix ans. Mais les choix qui sont consentis aujourd'hui, qui sont critiqués, et pourtant je suis moi-même libéral, je suis contre par principe la dépense public. Mais dans ce cas précis, je considère que cela est un choix qui est politiquement gagnant.
On marque une pause. Vous réagirez dans un instant, Patrick Bertrand. C'est Jean-Pierre Petit qui dit toujours « timing is crucial ». Effectivement, en fonction de la durée, et on l'avait dit avec Jean-Marc Daniel, on a vu un jour un échange à 7h10, on avait dit en fonction d'éléments que nous ne maîtrisons pas, l'évolution de l'épidémie en Chine, l'évolution du conflit à nos portes, on peut faire moins 4% ou plus 4%. Vous réagirez dans un instant là-dessus. On dira aussi un mot quand même des boucliers entreprises. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui a été annoncé pour les PME. Moi, j'arrête pas de voir des chefs d'entreprise qui me disent « Ah oui, c'est sympa, mais moi, j'y ai pas droit. » Alors, ça va commencer à poser un problème parce qu'on n'arrête pas de nous dire à Bercy que tout a été amélioré, facilité, assoupli pour que justement, il n'y ait plus de trous dans la raquette et que tout le monde y trouve son compte en 2023 sur sa facture d'énergie. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Patrick Bertrand, directeur général opération d'Olnest, le family office de Jean-Michel Aulas. Sylvain Aurébi, le président d'Orientis, pour les Técousmi notamment. Et Rafik Smati, chef d'entreprise dans le digital et fondateur d'Objectif France. J'ai plein de réactions d'auditeurs. Dankit. Il est impossible de nous comprendre. Vous parlez de millions. La plupart des salariés ne voient que quelques euros. Très bien d'avoir protégé les salariés contre l'inflation, mais arrêtez de parler de moyenne, ça ne parle pas, nous sommes tous des cas particuliers, c'est vrai. On dit toujours que la moyenne est la réalité de personne. D'ailleurs, allez voir le dernier portrait social de l'INSEE, qui a essayé de voir en 2022 ce que les baisses d'impôts et les aides exceptionnelles avaient apporté comme enrichissement personnel aux Français. La moyenne ne veut rien dire, c'est 280 euros. Mais l'INSEE a pris du premier au dixième décile pour voir exactement ce que chacun avait pu gagner. La plupart des mesures étant des mesures fiscales, évidemment, c'est ceux qui sont soumis au maximum d'impôts qui en ont le plus profité. Il y a d'autres réactions. Et après, je vous donne la parole, Patrick Bertrand. Voyons, Romain m'écrit, et pourquoi pas un dividende salarié retardé en demandant à alimenter les plans d'épargne retraite à la française. Ça a commencé à devenir compliqué, Rafik.
Voilà, là on rentre dans l'usine d'en parler, Rafik.
Oui. Avec le développement technologique, l'informatique, la robotisation, l'intelligence artificielle, la part du travail devient de moins en moins importante par rapport au capital dans la valeur ajoutée. Vous validez ça ? Plus il y a de technologie, moins il y a de travail dans la...
Il y aura d'autres travails et d'autres formes de travail.
Très probablement. Bon, allez-y, vous vouliez réagir.
Non, juste pour réagir, c'est ce que disait Rafik, complètement en face sur la première phase, le premier constat, c'est rafler la mise. C'est-à-dire que globalement, on sent qu'on arrive à maintenir un pouvoir d'achat minimum, même s'il y a des gens qui sont de plus en plus en précarité. On a des aides pour permettre aux entreprises de travailler, de passer cette mauvaise phase. La vraie question, c'est le futur. Ça se fait avec de la dette. Et donc on est dans le schéma français qu'on connaît tous, et Dieu sait si je suis attaché au modèle social français, c'est que c'est un formidable amortisseur de crise, mais c'est les semelles de plomb quand ça redémarre. Et c'est le sujet de fond. Parce que c'est comme une entreprise qui aurait fait face à une crise en investissant massivement et puis en empruntant, et puis, bah oui, elle passe mieux la crise que d'autres entreprises, mais le problème, c'est qu'après, il faut rembourser la dette. Et donc, oui, on va rafler la mise au sens que les statistiques globales à la fois de pouvoir d'achat, d'inflation et de taux de croissance ou de moindre taux de décroissance vont être plutôt meilleurs par rapport à nos petits camarades européens. Le sujet, c'est que pendant ce temps, notre bilan s'alourdit.
Mais si pendant... réaction, mais sinon on avance. Hein.
Mais si pendant ce temps-là, nos entreprises sont de plus en plus compétitives, de plus en plus exportatrices, je vous envoie aux chiffres de la semaine dernière, où on a 140 000 entreprises exportatrices en France versus 130 000.
On est monté à 140 000 entreprises exportatrices aujourd'hui, on était à 130 000 en 2021.
Je partage l'optimisme de notre capacité à...
Je vais aller même au-delà de ça. Nous, notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, c'est d'être optimiste.
Exactement.
Par définition, le chef d'entreprise a une vision à long terme de ce qu'il fait.
Absolument.
Et par définition, il crée les conditions pour que ça ait lieu. Absolument. Et donc, je vous le dis, le jour où les chefs d'entreprise diront c'est mort, il faudra vraiment s'inquiéter. Donc, il y a aujourd'hui un terrain de jeu qui est fantastique.
Et je partage votre optimisme si le timing est bon.
Si le timing
est bon. En tout cas, soyez rassurés, Gabriel Attal a refusé la demande du FMI de reporter la baisse des impôts de production prévus pour 2023. Donc, la moitié de ce qui reste de CVAE en 2023, l'autre moitié en 2024. Et c'était lundi, Bruno Le Maire a répété, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Bon, à côté de ça, j'entends que des chefs d'entreprise, Sylvain Rébi, me dire c'est super, là, les boucliers tarifaires entreprises 2023. Moi, j'ai regardé mon cas, je rentre pas dans les cases, je suis pas éligible. Alors, il y en a trop qui me le disent pour que ce soit.
Oui, mais enfin, c'est vrai, mais enfin, le gouvernement est pas non plus là pour subventionner toutes les entreprises. Alors, je sais bien qu'il faut, essayer de rentrer dans les cases. Le problème, c'est que la plupart des entreprises n'y rentre pas, la mienne particulièrement.
Vous n'êtes pas éligible.
Non, on n'est pas éligible.
Avec la déjà facture avoir... d'énergie dont vous nous aviez parlé,
c'est une facture d'énergie qui est très importante au plan de mes boutiques, mais qui est peu importante au plan de mon chiffre d'affaires global. Donc on est en dessous des 3% d'énergie en chiffre d'affaires, donc c'est à peu près logique qu'on ne soit pas subventionné, qu'on ne soit pas aidé. C'est vrai que ça pose des problèmes à beaucoup d'entreprises. Encore une fois, on ne peut pas... aider chacun au cas par cas, c'est trop compliqué. Il y a des entreprises qui rentrent pas et qui en ont besoin, il y a des entreprises qui rentrent pas dans les cases et qui en ont pas besoin, il y a des entreprises qui rentrent dans la case et qui n'en auraient pas besoin, c'est très compliqué quand on veut aider tout le monde. Bon, donc il faut vivre avec, ça reste quand même des situations très compliquées pour beaucoup de chefs d'entreprise, et je comprends que certains soient inquiets de leur avenir, parce qu'il y a des entreprises qui vont fermer à cause de ces problèmes d'énergie et qui ne peuvent pas être aidées parce que justement elles ne sont pas au bon endroit au bon moment.
Seulement là, ça va aller plus loin que les entreprises zombies. Hein. Il y en a qui vont aller au tapis.
Pas d'entreprises
zombies.
En pleine forme l'année dernière.
On avait dit en sortie de crise, il y aura la purge naturelle Schumpeterienne, et celles qui n'ont pas d'avenir disparaîtront. Ça risque d'être plus. Parce que là, la photographie pouvoir d'achat réalisée par FIP Addict, ils sont beaucoup moins optimistes pour 2023. Hein. Parce qu'il y a un moment, on ne peut pas tenir sur la durée ces fameux boucliers tarifaires. Enfin, je vous rappelle, le bouclier tarifaire 2023, 45 milliards d'euros bruts. Alors, je dis brut parce qu'il est en partie financé par la captation de la rente inframarginale des producteurs d'énergie hors gaz, qui est plus importante que prévu, qui sera de 11 milliards d'euros en 2023. Bon, allez-y, Rafik Smati.
C'est pas le rôle de l'État. Je crois que l'État en fait déjà beaucoup, s'agissant de l'électricité. Mais c'est pas le rôle de l'État que de prendre en charge toutes les augmentations de coûts des entreprises, et c'est un chef d'entreprise qui vous le dit. Moi, par exemple, dans l'une de mes activités, Ouprint, j'ai eu le prix du papier qui a augmenté de 80% sur la matière première. Bon, je ne vais pas demander à l'État un bouclier tarifaire sur le papier, ça n'a pas de sens. Donc, de la même façon, c'est vrai que certaines entreprises, comme la mienne, comme la vôtre, peuvent passer entre les mailles du filet de ce qui est proposé en termes de politique énergétique, mais quand on voit la politique globale on ne peut pas décemment demander à l'État de mettre plus d'argent sur la table, c'est pas possible. C'est notre responsabilité à nous, chefs d'entreprise, que de travailler sur notre compétitivité, que d'être bon, que d'être meilleur que nos concurrents. Et puis ensuite, les meilleurs réussiront et les moins bons, pas. Mais c'est la vie des affaires.
Ça, c'est un vrai discours de chef d'entreprise.
C'est vrai aussi. Bon,
normalement, il y a un guichet pour les ETI, justement, où c'est du cas par cas.
Voilà, exactement.
Celui qui va toquer à la porte, on regarde sa situation précisément. Et... Donc, vous voulez rajouter quelque chose
Non, mais très rapidement. Bon. Rafik a raison, globalement. Mais il y a quand même des situations qui sont particulières, et notamment nos industries et nos industriels. Et puis, le deuxième point, heureusement qu'il y a une zone de respiration avec ce guichet, mais n'est pas pris en compte, donc il est pris en compte le poids de l'électricité dans la valeur ajoutée ou par rapport au chiffre d'affaires, n'est pas pris en compte l'impact de cette augmentation sur les résultats, et ça peut mettre des sociétés en perte, alors même qu'elles ne sont pas aux 3 ou aux 5% de poids d'électricité par rapport au chiffre d'affaires.
Comme
toutes les matières premières, tout à fait. Et là encore, accompagnons et faisons confiance aux chefs d'entreprise, comme vous le disiez Rafik, de s'adapter.
Emmanuel Macron est aux États-Unis pour une visite d'État de 3 jours. Au cœur des discussions qu'il aura avec son homologue américain Joe Biden, il y a cette fameuse IRA, cette loi anti-inflation. Petit scandale sémantique, c'est une loi hyper subvention. 370 milliards d'euros votés cet été qui, dès le début de 2023, arroseront tous azimuts l'économie américaine avec une volonté protectionniste totalement patente. Et donc là, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va devant l'OMC pour essayer d'obtenir un règlement des différends dans 5 ou 10 ans au sein d'un tribunal de concurrence de l'OMC qui dysfonctionne depuis des années? Est-ce qu'on fait pareil? Hier, Robert Habeck, le Bruno Le Maire allemand, a dit, bon, enfin pareil, nous aussi, on va subventionner massivement nos industries.
Ils ont déjà fait.
Ah bah après, c'est la loi du talion, hein, c'est œil pour œil, dent pour dent, et puis le ton monte et les mesures de rétorsion monte. Est-ce qu'on ne fait rien, comme on a fait souvent, au nom d'une concurrence qui doit être parfaite? Un libre-échange absolu, alors on tend même l'autre joue. Comment vous voyez cette situation qui, enfin, c'est du America First, mais XXL.
Sylvain Aurémy. Nous, on subventionne les entreprises aussi, mais on subventionne toutes les entreprises.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Les entreprises françaises, les entreprises européennes, mais aussi les entreprises étrangères, finalement. Elles reçoivent les aides, les milliards qu'on dépense, elles les reçoivent aux États-Unis.
Par exemple, crédit d'impôt
recherche. Aux États-Unis, l'aide aux voitures électriques, c'est les voitures électriques américaines produites aux États-Unis.
Par des ouvriers syndiqués.
Par les ouvriers syndiqués.
Sachant qu'il n'y a que les constructeurs américains qui sont dans les États du Nord où il y a des syndicats.
Absolument. Et c'est là qu'il y a du protectionnisme.
Ben bien sûr.
Alors, tandis que nous, on balance des centaines de milliards, et d'ailleurs les 200 milliards allemands, ils sont ouverts à l'ensemble des entreprises, qu'elles soient allemandes, européennes ou hors de l'Union européenne. Donc, est-ce qu'il faut aller vers ce protectionnisme? Moi, je suis anti-protectionnisme, parce que je trouve que c'est finalement perdant en perdant.
Ah ben, à la fin du match,
on n'y gagne rien, et personne n'y gagnera jamais rien. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On aide les entreprises comme on peut les aider, les Américains font un peu la même chose. Bon, on verra à la fin de la journée qui a gagné. Est-ce que c'est vraiment à notre détriment ces milliards que les Américains balancent?
Moi, je vois des choses très concrètes. Hein. Déjà, là, effectivement, cette loi, Hyundai, hein, qui est la deuxième voiture électrique la plus vendue sur le sol américain, n'en construit pas une sur le sol américain. Du jour au lendemain, voilà. Hyundai ne vend plus une voiture électrique. Ça va être concret.
Exactement.
Vous prenez le Suédois, comment il s'appelle Suédois, mince, je ne sais plus son nom, Northvolt. Northvolt s'apprêtait à construire une usine de batterie en Allemagne. Fini. On abandonne le projet. Et on étudie éventuellement la localisation sur le sol américain. Parce que l'électricité est 3 à 4 fois moins chère en gaz que ce qui nous est vendu ici. Qui sera perdant à la fin de l'histoire? Patrick Berthier.
Le protectionnisme n'est pas un vilain mot. Il est porteur de dégâts s'il est sur le long terme, n'est pas un vilain mot. Dans un système libéral, il est bon de protéger pour laisser monter en puissance ces acteurs. Et vous avez donné l'exemple de la voiture électrique, c'est symptomatique. L'Europe a pris une décision de plus de voitures thermiques à l'horizon 2035.
La vente.
Oui. Et on n'a pas la compétence pour le faire. Donc soyons protectionnistes, faisons en sorte qu'on laisse monter en puissance la transformation de l'industrie automobile pour qu'à un moment donné, la mesure qui soit prise se fasse dans un contexte, et là on revient sur le système de libéral et de libéralisme et de concurrence équilibrée. Donc le protectionnisme n'est pas un vilain mot, c'est une bonne arme, c'est une arme à utiliser, mais à utiliser de façon temporaire pour permettre à nos groupes de se transformer. Le deuxième élément...
C'est que le consommateur qui va le payer. Ouais,
votre micro n'est pas ouvert,
mais oui, mais de toute façon, c'est le consommateur qui va payer.
Approchez-le, Sylvain.
Le deuxième élément, enfin, tout le monde parle et est conscient de la naïveté européenne sur ces sujets. D'ailleurs, c'est pas une naïveté, c'est même presque une stratégie, c'est libéral-libéral, multilibéralisme. À tel point que il y a des systèmes qui existent, depuis les années 50 aux États-Unis, par exemple le Small Business Act, qui réserve aux entreprises américaines installées aux États-Unis de la commande publique. J'ai moi-même, quand je dirigeais une entreprise de logiciels avec la société d'éditeurs de logiciels, on s'est battu pour le Small Business Act pour faire en sorte que l'administration réserve ses achats d'IT et de technologie aux entreprises françaises. Et en permanence, alors ici c'est l'émission des experts, donc je ne suis pas expert de ce sujet, mais en tout cas en permanence, on nous a brandi OMC, on ne peut pas faire. Il y a le Small Business Act qui existe, et puis Elisabeth Borne commence à parler de Buy European Act. Formidable, mais arrêtons, sortons de cette naïveté qui va d'ailleurs beaucoup plus loin, puisque au-delà de ce qu'on vient d'évoquer, il y a aussi le sujet du contrôle des concentrations, où l'Europe, là encore, empêche toute concentration et toute constitution
Thierry
de
Breton
groupe,
a beaucoup bossé
de groupe
sur le
européen.
Sujet.
Pardon.
On a un Thierry Breton qui bosse quand même beaucoup sur ce sujet aujourd'hui et avec beaucoup
de
clairvoyance.
Vous vous rendez compte le chemin à parcourir.
Oui, mais on est 27, on n'est jamais d'accord sur rien. Regardez l'histoire du prix du gaz.
Oui, absolument.
Il n'y arrive pas. Bon.
Absolument. Il y a ces deux sujets qui sont importants et qu'il faut savoir maîtriser, non pas comme une arme durable et comme une constante qui va s'établir sur les 50 prochaines années, mais comme une arme temporaire. On parlait du timing qui est crucial. Eh bien, le timing est crucial. Et au passage, d'ailleurs, c'est intéressant de voir ce qu'ont fait les États-Unis, mais on parle plus, alors ça fait un petit brouhaha, on parle plus des 200 milliards de l'Allemagne. Parce que tout proche de nous, dans notre communauté, qui est la communauté européenne, eh bien, il y a quelqu'un qui l'a fait. Les États-Unis, c'est le deuxième rang par rapport à nos sujets d'alliance.
Alors, j'ai bien aimé le titre de la chronique de Bertille Bayard dans le Figaro. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un Make Europe Great Again?
Oui, mais on va nous dire, l'OMC.
Oui, enfin là, faut
donc
arrêter.
Ça va durer 10 ans.
Quand on voit comment la Chine s'est mouchée avec les règles de l'OMC depuis son entrée
dans
l'OMC en 2001, ils n'ont rien respecté du tout, ils ont subventionné comme des malades, ils ont trafiqué leur monnaie, ça va, quoi. En plus, l'organe de règlement des différends ne fonctionne pas. Donald Trump l'a figé pendant des années, et ça ne marche pas. Après, il faut 5 ou 10 ans pour avoir un avis, et l'avis ne sera pas respecté.
Je parlais de naïveté tout à l'heure, naïveté qui est bien comprise et bien pilotée.
C'est exactement comme l'histoire de procédure pour déficit excessif. On peut lancer des procédures pour déficit excessif, ça change absolument jamais rien. Les retraites, on a 11 minutes, je veux qu'on parle des retraites et des loyers sous un angle un peu différent. Parce que bon, il y a l'encadrement des loyers qui monte en puissance. Rafik Smati, elle l'a, Elisabeth Borne, elle a hier appuyé sur le bouton. Ça discute, ça concerte, j'adore. On négocie plus, on concerte aujourd'hui. Avec Olivier Dussopt, c'est pour dire que, mais on sait bien comment ça va se passer. Ça va se décider exactement comme pour l'assurance chômage, où Olivier Dussopt, là, il y a 10 jours, a convoqué les partenaires sociaux, et il leur a sorti les PowerPoints des éléments de réforme de l'assurance chômage. Et c'est là où on a appris la durée d'indemnisation amputée d'un quart, avec ce pivot de 9% de taux de chômage, ou une évolution de 0,8 points. C'était à prendre ou à laisser. Je vais vous raconter une petite histoire. Les syndicats ont envoyé aux journalistes des photos du document papier qu'on leur a donné en arrivant au ministère du Travail. Il était quoi, 10h30, 10h à peine. Et il tournait les pages, il prenait les photos, et il y avait, voilà, c'est ça, les concertations. Bon, tout était écrit. Et là, on appuie sur le bouton. Des retraites. Et là, c'est mi-décembre. Je ne sais pas comment vous voyez le... Parce que là, les syndicats ont déjà dit, bon ben, attendez-vous à avoir un mois de janvier bien bloqué. Hein.
Je vais vous dire, Nicolas Dose, dans quel état d'esprit je suis. Et je crois que dans cette période actuelle, il faut faire preuve de beaucoup de responsabilité. Moi, fondamentalement, je suis philosophiquement, je précise.
Optimiste.
Non, contre la manière dont est présentée cette réforme des retraites. Moi, j'aurais voulu une réforme avec plus de capitalisation, une réforme structurelle, etc. Ce ne sera pas le cas, j'en prends acte. Cela étant dit, eh bien, j'ai envie que ça se fasse. Voilà. J'ai pas envie qu'on passe 6 mois en discussion avec un pays qui sera à l'arrêt en janvier, février, etc. Le report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans ou 64 ans, c'est pas la réforme du siècle. On aurait sans doute pu faire mieux. J'aurais voulu qu'on fasse mieux, mais je prends le plus vite possible. Je n'ai surtout pas envie de. Mais regardez tous les enjeux dont nous avons parlé, qu'ils soient géopolitiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient financiers. La France ne peut pas se permettre le luxe d'avoir un mois de janvier, un mois de février avec par-dessus le marché, des coupures de courant qu'on aura peut-être, etc. Regardez toutes les épées de Damoclès que nous avons sur le dos. Donc, on ne peut pas aujourd'hui prendre le risque de l'irresponsabilité, de rentrer dans des joutes de politique politicienne ou, s'agissant des syndicats, chercher à exister pour satisfaire un électorat. Non. Soyons tous raisonnables. C'est pas la réforme du siècle. Ceux qui sont contre doivent peut-être accepter d'avaler leur chapeau. Et puis, ils auront l'occasion de revenir dessus quand il y aura un autre gouvernement qui refera, comme François Mitterrand, la retraite à 60 ans. Soyons matures. Il y a aujourd'hui une...
Personne ne le fera. Hein. Personne ne refera ça.
Je suis d'accord.
Vous avez remarqué que plus personne... jamais on détricote la réforme des retraites que son prédécesseur a fait, même s'il était dans un camp politique opposé. Parce qu'on se dit, c'est tellement balèze de l'obtenir, il fallait le faire, même si j'étais contre, alors que je sais qu'il faut le faire, que je ne vais pas revenir en arrière.
Mais c'est ça qui est extraordinaire. Quand vous voyez l'opposition...
L'hypocrisie sur ce sujet qui est...
Quand vous voyez l'opposition aujourd'hui dire, l'opposition de droite dire, oui, mais la réforme Touraine est très bien et il faudrait juste l'amplifier, sachant qu'ils étaient contre quand François Hollande était aux responsabilités, tout ça, c'est une vaste hypocrisie. Donc moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Une réforme des retraites doit être faite. qu'elle soit faite. Tant pis si c'est pas la réforme idéale, tant pis si on n'a pas la capitalisation, on aura l'occasion de le faire plus tard. Mais de grâce, mettons-nous en ordre de marche, nous tous, collectivement, pour que le pays soit debout en janvier, en février, en mars, lorsque nous serons dans l'œil du cyclone.
Très court, parce qu'un mot de Twitter et des loyers.
Oui, très court. Il faut rappeler les chiffres. L'écart d'âge de départ à la retraite avec les principaux pays européens et l'OCDE, c'est 3 ans. On part 3 ans plus tôt. Et quand on regarde l'espérance de vie, la France est un des pays où l'espérance de vie est la plus importante. C'est QFD. Donc il faut qu'on traite le sujet. On sait bien qu'en sous-jacent, la résistance des syndicats est très liée à l'existence des régimes spéciaux. Et donc là, ça a déjà été enclenché avec la SNCF. Enclenchons, et ça fait longtemps, j'en ai déjà parlé sur ce plateau, ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire parce qu'on gagne, c'est lent, mais on gagne année par année, enclenchons la clause de grand-père, c'est-à-dire tous les nouveaux recrutés bénéficient d'un système qui est différent des anciens qui sont rentrés dans une entreprise avec un package, et ce package enclenchait un âge de départ à la retraite plus tôt. Voilà, je crois que c'est à partir du moment où on accepte le constat, il ne peut y avoir négociation que s'il y a accord sur le diagnostic partagé. La crainte que j'ai graphique, c'est que comme il n'y a même pas d'accord sur le diagnostic partagé, on se dit que tout va bien. Et puis, il y aurait la clause de respiration qui est une initiative permettre aux gens de compléter leur retraite par de la capitalisation. C'est très étonnant qu'il n'y ait pas cette petite clause de respiration qui existe dans tout bon accord.
Ouais. J'aimerais avoir votre avis. C'est dur d'avoir un avis, mais Twitter, là...
On est là pour ça, Nicolas.
Oui, ouais, bien sûr. Comme vous êtes un peu des gens du numérique, pour certains d'entre vous, je me demande où va Twitter depuis qu'Elon Musk est arrivé. D'abord, je rappelle qu'il a acheté 44 milliards d'euros, quelque chose qui ne gagne pas d'argent. C'est extraordinaire. Et là, c'est la bérésina en termes d'effectifs. Et puis maintenant, c'est les annonceurs qui s'en vont. Enfin, vous avez, ça vous...
Oui, il utilise Twitter comme un outil politique. C'est ni plus ni moins qu'un outil politique. Il a décidé de redonner la parole à des tas de gens qui disent n'importe quoi. Il a rouvert le compte de Donald Trump. Oui, il a décidé d'essayer de monétiser. Il a pris des décisions qui allaient dans un sens puis dans un autre. Monétiser les petites pastilles bleues.
C'est une catastrophe. Il n'y a eu que des fakes partout.
Il ne le fait plus. Je pense qu'il n'y a pas de stratégie économique autour de Twitter. Il y a une stratégie politique. Il veut s'en servir, il a payé 44 milliards pour s'en servir, pour peser sur la prochaine élection. Pour peser sur la prochaine élection des présidentielles américaines en 2024. Et il a payé 44 milliards pour ça. Puis s'il perd 44 milliards, il lui restera encore 150 ou je ne sais pas combien. Et d'ailleurs, il va perdre ses 44 milliards, si vous voulez mon avis, parce que finalement, à force de donner la parole à n'importe qui, Twitter va disparaître. Parce que vous et moi, on n'y sera plus. Vous n'y êtes pratiquement plus déjà.
Que pendant l'émission, pour avoir les réactions de leaders.
On n'y sera plus. Et donc, il va peser sur les élections américaines. Comme les Russes ont pesé avec leur fake news sur les élections américaines ou anglaises d'ailleurs, son but, c'est de peser officiellement, sans se cacher. Il n'y a pas de cabinet noir. Il va peser officiellement tous les jours sur la campagne américaine de 2024 pour faire élire le candidat républicain qui l'appelle de ses voeux.
L'âge de départ à la retraite n'est pas un problème, c'est une idéologie, m'écrit cet auditeur. Twitter, là, une réaction particulière?
Vous savez, moi, j'étais un grand admirateur du Elon Musk d'avant. Vous savez, celui qui a inventé des fusées réutilisables, qui a véritablement révolutionné le monde de la conquête spatiale. C'est celui qui a mis Mars en horizon de conquête, en se disant, tiens, nous, l'espèce humaine, on doit aller plus loin. C'est celui qui a inventé la généralisation à outrance du véhicule électrique au point, et c'est génial, d'en faire l'étalon aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce que font les gouvernements aujourd'hui est basé sur la décision individuelle d'un entrepreneur qui est Elon Musk. J'aime le Elon Musk qui dit il y a un an ou deux ans qu'il va donner une prime de 100 millions de dollars à quiconque trouvera une solution technologique pour lutter contre le réchauffement climatique et absorber le CO2. Cet Elon Musk-là, c'est un Elon Musk qui apportait du rêve. Là, je l'observe. Je lui donne en partie le bénéfice du doute. Je me dis, tiens, peut-être qu'il est en train de faire un truc que je n'ai pas compris. Mais si les choses se passent tels qu'on les voit objectivement, je suis effectivement extrêmement inquiet. Alors, c'est pas la première fois qu'un entrepreneur achète un média d'influence pour... je vous rappelle que Jeff Bezos a acheté, je crois que c'était le Washington Post. Donc, c'est pas la première fois.
Pour le même prix.
Pas le même prix.
Il le fait de manière plus moderne. Il achète un réseau social plutôt qu'un titre de presse. Donc, ça peut se comprendre. Mais la manière très maladroite, les prises de position, les interventions de Elon Musk, c'est vrai que ça donne le vertige. Et moi, j'aimerais bien retrouver le Elon Musk d'avant, celui qui nous envoyait du rêve, pas celui qui crée des tensions tensions et des crispations comme c'est le cas aujourd'hui.
On termine avec les loyers. Alors, je voulais parler de l'encadrement des loyers parce que la ville de Marseille, parmi toutes celles qui demandent la possibilité d'encadrer les loyers, l'a obtenu hier l'autorisation. Il y a encore un groupe de communes du Pays Basque, Annemasse, Cergy, Grenoble, le Grand Orly, Seine-Bièvre, à l'intercommunalité. Et quand je parle de loyers à Sylvain-Aurébi, il me dit non, mais il y a un sujet aussi dont personne ne parle. Et en fait, c'est un vrai sujet et c'est ici qu'on va en parler, les loyers commerciaux.
Eh oui. Parce que là aussi, il y a une augmentation qui est prévue. L'indice des loyers commerciaux, l'ILC, augmente avec un certain nombre de facteurs, dont la hausse des prix, et on se retrouve avec des loyers commerciaux qui sont pas fixés pour 3 mois. C'est des loyers commerciaux, quand vous avez une boutique, qui sont fixés pour 3 ans, 6 ans, 9 ans, enfin, ça engage l'avenir, et l'augmentation de ces loyers commerciaux, aujourd'hui, l'indice, il augmente, le dernier trimestre, il a augmenté de 2,5%, mais avec l'inflation qu'on a aujourd'hui, au cours de l'année, on aura un ILC qui va augmenter de 4, 5, 6, 7%, et donc des loyers qui vont augmenter de 4, 5, 6, 7%, avec en face les revenus de la boutique qui n'augmentent pas de la même façon. Et on va se retrouver avec des gens qui ne seront pas en mesure de payer leur loyer, parce que finalement, la boutique ne gagnera plus rien et ils vont la fermer. Et là aussi, il n'y a pas du tout... Alors si, le gouvernement, dans sa grande sagesse, a décidé de bloquer... De limiter la hausse des loyers commerciaux à 3,5% pour, je vous le donne en mille, les PME. Les PME. Ah. Et encore une fois, vive les PME. Nous sommes un pays de petites entreprises avec des petits
small
chefs d'entreprise.
Small is beautiful.
Small is very beautiful. Donc les PME, on leur bloque à 3,5%, ce qui est déjà beaucoup. Mais bon, on leur bloque. Mais les autres, et tous les grands groupes, et toutes les sociétés comme la mienne, encore une fois, moi je suis un idiot d'ETI. Toutes les autres n'ont pas de blocage, et cette ILC va poser de gros problèmes. On en reparlera au cours de l'année. Cette augmentation des loyers commerciaux au-delà des 3,5%, au-delà des 5%, au-delà des 6%, va poser d'énormes problèmes. Et in fine, ça posera des problèmes aux propriétaires, puisque tous les centres, tous les bailleurs, les Unibail, les Clépierre, etc., vont se retrouver avec des gens qui vont fuir leur centre. C'est-à-dire non seulement... ils vont être obligés de les quitter, mais personne n'y retournera, parce qu'on sait que c'est on ne peut pas payer ce type de loyer. Donc il y a un problème général dont on parlera dans l'année 2023.
D'accord. 55 secondes, on a fini.
55 secondes sur les loyers d'habitation. N'oublions pas que le propriétaire, c'est pas l'ultra riche avec beaucoup de nos ménages qui sont parfois propriétaires d'un petit appartement de rapport. Il y a deux augmentations massives qui interviennent. Augmentation massive de la taxe foncière et une augmentation indirecte qui est l'obligation de rénovation énergétique. Et en même temps, on leur dit, on va te bloquer les loyers. Donc il y a un gros bug dans la prise de conscience de l'ensemble des acteurs. Et comme toujours, on fait de la politique en disant, on va bloquer les loyers. Donc comme ça, on est content. Et tout le monde est content, mais non, on pénalise aussi les petits propriétaires qui vont avoir une augmentation de leurs charges considérable.
Généralement, on a tendance à considérer que le locataire est celui qui est gentil et le propriétaire celui qui est méchant. Il y a quand même deux députés, vous savez, qui ont rédigé une proposition de loi pour donner enfin des armes aux propriétaires qui sont face à des squatteurs ou des mauvais payeurs. C'est assez rare qu'on fasse les choses dans ce sens-là. Ça mérite d'être souligné. On va suivre le parcours législatif de cette PPL, comme on dit en langage législatif. Bon, c'est fini, hein. Voilà, je termine. Patrick Bertrand aujourd'hui, Sylvain Aurébi et Rafik Smati. On se retrouve demain à 9h.